Bon, ben, je vous présente Alain Farah, que vous connaissez certainement, mais ça me fait un plaisir de rappeler son parcours rapidement. Né à Montréal, de parents libanais venus d'Égypte, je pense, d'Alexandrie,
ouais,
en 79. Et puis, auteur au Cartanier de déjà trois livres, Quelque chose se détache du port, qui est un recueil de poésie, publié originalement en 2004, repris en 2009, qui était finaliste au prix Émile Milligan. Matamore numéro 29, son premier roman, publié d'abord en 2008, repris en 2010, et en 2014, je pense, aux éditions Léo-Cher.
Je pense en 2010 à Léo-Cher.
OK, ouais. Et 2014 en format poche. Et Pourquoi Bologne, roman paru en 2013, repris aussi en 2016, qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui, ouais. Hein, c'était ça l'idée. Je vous rappelle aussi qu'il est professeur de création littéraire et de la littérature française contemporaine, qui est ton champ de spécialisation à l'Université McGill depuis 2009. Il a publié un essai, qui était en fait, si j'ai bien compris, la thèse de doctorat, reprise, le Gala des Incomparables, consacré à Olivier Cadio et Nathalie Quintane, au Classique Garnier en 2013. Il vient de faire paraître un roman graphique, La ligne la plus sombre, avec Mélanie Baillarger à la Pastèque, donc évidemment en 2016. Et puis il a aussi un roman chantier, on va peut-être en parler tantôt vers la fin de la rencontre. Voilà, donc sans plus tarder, d'abord, moi, on n'avait pas convenu d'un titre pour la rencontre. Hein? Alors, à un moment donné, Hélène Auton m'avait demandé de suggérer un titre. Alors, pourquoi Bologne? J'ai dit, pourquoi pas Bologne? Et puis, entre-temps, Alain a dit, ben, j'ai un titre, Le mystère de Bologne. Hein? Puisque ça
l'énigme.
L'énigme de Bologne. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une nuance, quand même, qui est aussi effectivement dans le roman. Donc, on va certainement y revenir. Mais ce que j'aimerais, d'abord, c'est peut-être poser une question sur la question du genre, la question générique dans le roman, parce que...
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est supposé être un truc sur le policier.
Ouais. C'est ça. C'est-à-dire l'idée du... Hein, de la, si j'ai bien compris, l'idée de... Les rencontres étaient autour de romans policiers ou d'espionnage, romans noirs. Tu sais, c'est un peu ça.
La rencontre d'aujourd'hui ou la rencontre non, depuis le début
le cycle,
OK.
C'est ça qu'elle avait dit.
Alors voilà, c'est dans ce contexte-là que tu avais été invité, tu avais accepté l'invitation. Maintenant, en lisant le roman, en le relisant, il faut que je te dise d'emblée d'abord mon admiration, parce que je suis désolé que je n'ai pas pu faire un compte-rendu dans Spirale à l'époque, parce que je l'avais lu un peu trop tard, je ne l'avais pas lu à la sortie, et donc j'avais raté le coche, disons, pour le compte-rendu, mais c'est un roman, à mon avis, qui non seulement n'a pas eu toute l'attention, mais n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite, à mon avis, parce que c'est vraiment un roman, à mon avis, très fort, qu'on peut relire et relire encore et trouver d'autres matières qui n'ont pas surgi dès le début. La question du genre, je la pose parce que, bon, d'une part, évidemment, on t'a mis dans ce cycle-là, et effectivement, il y a des éléments de roman noir, de roman d'espionnage, hein, il y a des clins d'œil à Hubert Aquin, on va y revenir, il y a une scène assez sadique dans un fantasmé, le bal des mortes, où des femmes charcutées, dépecées, donc il y a des éléments qui appartiennent à ces genres-là. Il y a aussi, à un moment donné, tu cites dans les références Richard Condon, dont on dit qu'il est un auteur de thriller satirique, et il y a quand même peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi dans ton roman, ou même, comme le disait un journaliste de la Gazette, thriller cérébral. Est-ce que c'est un compliment ou pas? C'est peut-être autre chose, on va y revenir. On parle, en quatrième de couverture, de science-fiction rétro. Normalement, on parle de récit d'anticipation, mais ici, ce serait une science-fiction rétro. On parle d'autofiction. Effectivement, il y a des éléments d'autofiction clairement affichés dans le roman, mais aussi, il y a des éléments d'anti-autofiction, parce que le narrateur qui dit « Je suis Alain Farah » plus tard dit « Mais c'est pas moi, c'est pas ma vie, je raconte pas ma vie. » On peut même parler d'anti-roman. Alors finalement, quand on se met à y penser, il y a tellement de catégories génériques, il y a tellement d'hybridité générique qu'on se perd un peu. Et donc, j'aimerais peut-être commencer par là. Toi, comment tu perçois ça?
Ben, en fait, d'abord et avant tout, merci. Merci d'être là, merci de l'invitation. C'est-à-dire, c'est l'occasion pour moi de repenser un peu à toute cette aventure parce que tu vois, moi, je l'ai quand même... C'est un moment important pour moi, ce livre-là. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais revivre souvent comme ce que j'ai vécu autour de ce livre-là qui pour moi... C'est-à-dire, je voulais que ça constitue un geste, justement, puis un geste littéraire, pour aller dans le sens de la question, qui mettait à mal, jusqu'à un certain point, ces espèces d'étiquettes génériques dans laquelle... dans le fond, on n'est jamais super adéquat. Puis j'avais été beaucoup marqué, moi, par l'idée de la littérature générale, qui était un peu une sorte de projet de Cadio et d'Alfieri dans les années 90, de penser la littérature justement à l'extérieur de ces cadres-là génériques qui servaient, je ne me souviens plus de leur formule, mais c'était essentiellement qui servait le commerce davantage que le travail vraiment de l'écriture. Donc, ça ne s'est pas... c'est-à-dire, j'ai pas... Ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que c'est arrivé comme ça qu'il y ait eu cette sorte de contamination par toutes sortes de genres et puis que le livre apparaisse comme ça, comme un peu, c'est-à-dire porteur de ces mutations-là diverses. Mais pour moi, c'était plutôt le... C'est-à-dire le fil conducteur, c'était déjà le projet littéraire, c'est-à-dire que j'avais commencé quelques années avant, 10 ans avant, et puis la figure, c'est-à-dire la figure de cette espèce d'écrivain, donc qui est là, qui est justement, comme tu dis, dans la cité, qui essaye de s'inscrire, d'inscrire sa parole, mais dans un nouveau quartier, si on veut, de sa cité, qui est donc le campus, le Lower Campus McGillois, donc cet univers-là, donc qui est un peu étrange pour lui, alors qu'il est lui-même Montréalais, tout ça. Et puis après, c'est vraiment arrivé comme ça. C'est-à-dire que je me suis pas rendu compte sur le coup à quel point c'était contaminé, justement. Mm-hmm. Et puis, il y a dans toutes les recensions, dans tout ça, il y a une seule personne qui a parlé du début du livre, mm-hmm. dans tout ce qu'on a pu avoir au fil des années, tout ça. Et puis, c'est un Américain, justement, de la région de Burlington, qui a fait une critique de la version donc traduite en anglais, et qui parlait de nerd alert, au sens où que quand les mimes Internet apparaissaient, que c'était un nerd alert, donc que je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire d'une sorte de rapport geek à la culture, où justement les grandes sources, comme par exemple Joyce, qui est sollicité beaucoup à la fin, sont jusqu'à un certain point sur le même pied d'égalité qu'un mime internet ou qu'un vidéoclip de Lady Gaga, le bal des mortes. C'est le vidéoclip de Paparazzi que je rejouais là, un petit peu. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça, mais ça commence à dater, là, parce que c'est un livre qui a été écrit en 2008 et 2012, là, donc ça commence à...
Mais tu parles aussi d'un projet, parce que dans le roman, le narrateur dit, quand il parle de son livre, de son roman lui-même, donc il y a une espèce de mise en abîme, bien sûr, mais il dit que c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis longtemps et qui avait laissé un peu en jachère et qui a repris. Est-ce que c'est ça qui s'est passé?
Oui, ben parce que... Dans un sens, moi, c'est ça que je trouve difficile par rapport à l'étiquette de l'autofiction, c'est que c'est vrai que tout est vrai, mais tout est vrai dans une expression du réel qui est pas si intéressante et puis qui après est dopée par la fiction, par la littérature, tout ça. Donc oui, c'est en fait un livre qui a commencé à être écrit sur le campus même de McGill, mais avant d'avoir été embauché, parce que quelques mois avant, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'est 3 mois après ma mort, donc en décembre 2008, dans le fond, j'ai perdu mon oncle Nabil sur le campus. Donc, c'est l'événement déclencheur. Puis, j'ai vraiment, c'est moi qui ai dû annoncer sa mort à ma mère, tout ça. Donc là, ce jour-là, je me suis dit, OK, là, j'ai une affaire trop difficile. Donc, il faut que je sois capable de la déposer dans du langage. Et puis, après quelques mois, là, il y a mon arrivée à McGill. Donc, tout est un peu. T'es un peu contemporain, mais après, la forme que ça a pris, ça a été long, comme c'est toujours long pour moi, le travail. Là, donc,
intéressant que tu dis, parce que Nab, les épisodes, c'était le seul épisode que je croyais qui était entièrement fictif. Ouais. Là, tu me dis finalement, c'était au contraire non seulement réel, mais c'était l'élément déclencheur. Ouais, c'est ça. Alors que j'essaie de faire la part des choses, on va y revenir tantôt, en ce qui était vraiment des faits historiques, là, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui est retravaillée là-dedans. Ton histoire personnelle, bien sûr, elle est quand même là. Et je pensais que cet épisode épisode-là en particulier, ça avait été une des parties entièrement fictive. Là, je tombais dans le piège parce que finalement, tu me dis, c'est le point de départ réel. Mais là, c'est une question de professeur à un autre professeur. Je dirais, je donne le cours théorie méthode critique, donc je trouve dans les théories littéraires, comme toi, t'enseignes aussi. Et puis, on vient de faire le cours sur la théorie des genres. Et puis, Jean-Marie Schaeffer dit que peut-être les textes les plus intéressants sont ceux qui créer leur genre, c'est-à-dire au lieu d'entrer dans une catégorie préétablie, ou même de faire une synthèse entre deux genres, une sorte d'hybridité, ils construisent leur genre. Et moi, en lisant, ce qui m'avait frappé, en fait, dans ce roman-là, c'est ça qui une des choses qui m'a le sollicité parmi d'autres, c'est que oui, j'ai l'impression que dans ce roman-là, tu construis presque un genre hybride, mais un nouveau genre, mais au même moment, tu le déconstruis aussi. C'est-à-dire plus on avance dans l'intrigue, là, ça fait deux fois que je le lis, et j'aurai certainement le relire une troisième fois avant d'écrire un article de fond, parce que si je te l'annonce tout de suite, que pour m'amender du fait que j'ai pas fait le compte-rendu critique, je vais faire un article de fond sur ce roman-là.
C'est bien mieux.
Ça va être plaisant.
C'est une temporalité qui fonctionne plus avec mes projets. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, parce que j'ai été... c'est-à-dire on veut tous de l'amour là, tu sais, donc j'étais content quand tu dis on n'a pas rendu justice tout ça, mais moi en même temps je me sens pas comme ça, je me sens au contraire extrêmement privilégié par rapport à la vie qu'a eu ce livre-là, autant institutionnellement que commercialement que tout ça, pour ce que c'est là. Mais c'est sûr que on n'a jamais vraiment d'attente par rapport à ça, parce que notre temporalité, quand on fait ce travail-là, c'est la temporalité de la lecture longue. C'est-à-dire, c'est une autre affaire. Donc pour moi, c'est ça qui me fait plaisir quand je tombais sur un numéro de Liberté une fois où, je pense que c'est Robert Richard qui disait, dans les livres qu'il faut lire avant de mourir, il y a le livre de poésie que Alain a fait en 2004, que des fois je vais tomber sur un truc sur ma... C'est-à-dire, c'est à ça que j'aspire, c'est-à-dire j'avais fait une blague à Martine-Emmanuelle Lapointe, elle s'en rappelle peut-être, il y a des années où j'avais dit que un de mes buts de ma vie c'était d'être dans la bibliothèque québécoise, tu t'en rappelles? c'était de l'ironie déjà, mais c'était bien avant Bologne, puis même avant Matamor, il me semble, mais c'est un peu l'idée de s'inscrire dans une durée, et puis ça, je pense que c'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste d'accepter que c'est un travail qui demande du temps, c'est-à-dire à être fait, puis qui demande du temps à être peut-être reçu, et puis qui fait son chemin, et puis donc mais je pense que j'ai évité la question théorique.
Oui, la question lusée, c'est ça. Donc, est-ce que tu veux revenir quand même là-dessus brièvement, savoir est-ce que...
Par rapport à Schaeffer?
C'est-à-dire surtout de construction des constructions. Est-ce que donc, est-ce que j'ai raison d'avoir cette perception-là, ou... parce que c'est une question de réception aussi, là. C'est presque comme si tu attendais déjà la réception, comme si tu prévoyais un peu ou si tu anticipais la réception possible de ce roman-là. Et donc, tu crées des attentes chez le lecteur, tu joues avec le lecteur, mais en même temps, tu le... un peu comme, différemment du Béraquin, je pense, tu le déjoues, tu le déçois, tu dis, c'est peut-être pas ce que... Je vous donnerai pas nécessairement ce que vous attendez, donc tu déconstruis aussi, en quelque sorte, le genre, parce que, évidemment, le genre conditionne aussi la réception jusqu'à certains points. Mais je sais pas si...
C'est-à-dire que le genre, dans ce projet-là en particulier, il était comme un espace de désir, vraiment. C'est-à-dire, j'aimerais tellement ça. T'sais, j'aimerais tellement ça, pouvoir... être dans ce rapport-là de transparence, ou de, c'est-à-dire d'être dans cette aisance-là par rapport à une sorte de manipulation du code, sans avoir besoin de le rompre ou de me dédouaner de l'usage de ce code-là. Mais de ce point de vue-là, c'est sûr que c'est un livre qui est très vigilant, là, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup attention à ce qu'il dit, puis à la manière dont ça construit un certain horizon d'attente, puis que ça le déjoue après, tout ça. Mais il n'y a pas... donc, moi, je pense que c'est beaucoup des machines de contrôle que j'écris, sauf que je pense qu'il laisse aussi aller l'effet général que je contrôle pas du tout, et puis je sais pas ce que je fais, tu sais, comme je me suis demandé si pour préparer la rencontre aujourd'hui je devais regarder le livre à nouveau, tout ça, parce qu'il est vraiment loin de moi, puis je me suis dit non, dans le fond, comme je veux voir comme aujourd'hui il est vivant comment en moi, ce livre-là qui là commence à être loin de moi, vraiment, qui était porté par une certaine mélancolie aussi, tout ça, et puis un rapport à la maladie mentale notamment, et puis là, dans le fond, je pense qu'il y a toute cette tentative dans le travail de dompter tout ce qui est affectif par ces mille et une stratégies qui marchent ou qui marchent pas. Mais c'est sûr que pour moi, je pense que j'avais fait semblant que c'est Ridley Scott qui disait ça, mais qui, quand il parle à un de ses producteurs, puis il dit, ben, c'est-tu grave si on comprend rien, mais que c'est beau?
Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Puis le réalisateur dit, oui, c'est vraiment grave.
C'est
grave. Tu peux pas, tu sais.
Mais tu joues là-dessus aussi, tu dis, évidemment, ce roman-là, au-delà de... Le narrateur, Alain Farah, nommons-le, dit ce roman-là, on va reprocher de faire des romans expérimentaux, avant-gardistes, trop abstraits. Là, je vais écrire un vrai roman en même temps. Il dit, mais en même temps, c'est pas ça que je fais. Donc, tu joues quand même avec cette attente, là, comme, oui, est-ce qu'Alain Farah va écrire un roman plus conventionnel? Mais quand tu donnes l'impression de le faire, finalement, c'est pas un roman conventionnel.
Ben, c'est ça. Mais c'est juste que. Puis dans un sens, quand je parle de durée, puis tu dis, est-ce qu'Alain Farah va écrire un roman conventionnel, tout ça, c'est, dans un sens, j'adore cette définition du style de Barthes qui dit que c'est biologique, dans le fond, tu sais, c'est vraiment, c'est l'espèce de verticalité d'un corps qui est juste capable de faire ce qu'il fait, parce qu'il fait comme ça, puis que c'est lui, puis c'est sa signature. Donc, je dirais que j'essaye à chaque fois, tu sais, comme de faire un roman conventionnel, mais que je suis pas capable, parce que je m'ennuie, en fait, en écrivant. C'est ça, donc c'est parce que c'est trop plate pour moi à faire. Pas au sens où, tu sais, ça peut avoir l'air hyper prétentieux encore, mais c'est vraiment que je suis pas capable, parce que pour moi, c'est pas encore un livre, tu sais, donc c'est sûr que je dirais que ça a un prix, là, ça a un prix du point de vue, justement, commercial, tout ça, mais pour moi, c'est pas vraiment important, parce que c'est une sorte de gambit au sens des échecs, c'est-à-dire, j'aime mieux sacrifier ça pour justement, au contraire, gagner. Moi, les écrivains que j'aime, ils en vendent pas des livres, là, donc, à un moment donné, puis je les aime, puis je les porte en moi, puis tout ça, puis ce que j'ai senti, à chacun de mes livres, dans des quand même des échelles différentes, là, c'est le fait d'avoir trouvé des lecteurs, tu sais, qui se sont reconnus ou qui ont apprécié, qui ont été émus, tout ça. Puis ça, c'est juste.
J'ai l'impression que ton lectorat doit être déjà différent pour ce roman-là comparé aux livres antérieurs. C'est-à-dire ceux qui ne juraient que par les livres antérieurs peut-être ont été désarçonnés.
Oui, tout le monde m'a dit « j'ai pas aimé ça ».
C'est ça. Et au contraire, ceux qui peut-être étaient réticents parce qu'ils disaient « c'est trop formaliste » ou « attends, il a raison ». Celui-là, au contraire, va aller les chercher peut-être, mais... Je sais pas.
Ben, ça a été. Non, parce que c'est-à-dire, j'aurais bien aimé, là, mais ça s'est pas tout à fait passé. Ben, ça s'est passé comme ça, mais c'est-à-dire, j'ai changé un peu d'échelle, là, par rapport au lectorat. C'est-à-dire que, disons, là, je connaissais plus tous mes lecteurs. Je veux pas les appeler par leur nom. Ça a été ça, la différence, là, avec Pourquoi Bologne. Mais c'était aussi une coïncidence de toutes sortes de choses, notamment le travail à la radio, tout ça. Et puis, mais je te dirais que c'est quand même à ça que je reviens quand je suis dans le travail, de me dire, je le fais pourquoi, je le fais pas pour correspondre à un genre ou un code ou à des attentes, je le fais pour essayer d'arriver à fabriquer le livre qui prend une photo de qu'est-ce que je suis à ce moment-là dans mon intimité, c'est-à-dire mentale, puis dans la manière dont j'essaye d'exprimer cette intimité-là mentale dans une forme qui est la littérature.
OK. Peut-être qu'on pourrait passer au titre maintenant. Je vais arriver tranquillement à l'intrigue. J'ai vite encore parlé d'intrigue, mais on va y arriver avec la temporalité et tout. Ouais. Et le titre, donc, Pourquoi Bologne, qui n'est pas une question d'ailleurs. Il n'y a pas de point d'interrogation dans le titre, mais évidemment, ça soulève une question. Et là, on a décidé que pour la rencontre d'aujourd'hui, on va parler de l'énigme de Bologne. Alors,
mais là, on va mettre il y a un point d'interrogation.
Là, il y aura une interrogation, oui, effectivement. Ouais. Parce que première question que je poserais, peut-être, enfin, autour du titre, dans le roman, tu dis. À un moment donné, pourquoi est-ce que j'ai parsemé autant de références à Bologne dans Matamor 29? De certains sens, j'y réponds dans celui-ci. Ouais. Donc, comme j'ai pas compris la réponse, je vais te demander d'élaborer un peu là-dessus.
Donc, moi, j'ai lancé ma Tamande No 29 dans cette librairie-là, dans le temps où il y avait, cette partie-là n'existait pas. Mm-hmm. Puis j'ai lancé mon livre précédent, mon premier livre, avec la gang, donc du Port de Tête, mais qui était encore à la bouquinerie dans le temps. Puis on avait loué une... On avait loué une salle au Patrovis. Et puis tous ces livres-là sont faits au Cartanier depuis le début, tout ça. Donc, je te dis ça parce que je me rappelle que dans les semaines qui ont suivi donc le lancement de ma Tamande numéro 29, qui était... Puis quand on si vous retrouvez la parution originale, vous verrez que c'est un peu la proto-maquette même de ce qui va devenir la série QR, parce que à l'époque, on faisait beaucoup d'illustrations, c'était toujours des couvertures uniques, tout ça. Puis moi, j'avais discuté avec Éric Larochelière, puis j'avais dit, j'aimerais ça qu'on... C'était un livre tellement bizarre que j'aimerais ça que la couverture soit la plus standard possible, c'est-à-dire qu'on prenne un peu une façon un peu minuit ou tout ça. Et puis, je dis ça parce que justement, dans les premières semaines, quand un livre sort, les gens t'écrivent, les gens sont contents ou ne sont pas contents, tout ça. Mais je me rappelle que j'avais écrit beaucoup de choses. J'avais beaucoup cité la ville de Bologne, qui est une ville que tu connais, mais que moi, je ne connais pas du tout. Je ne suis jamais allé. Puis même qu'à la fin d'écrire Bologne, je suis allé en Italie pour ne pas aller à Bologne. Okay, ça, je suis resté comme en Italie pour ne pas y aller. Parce que pas aller à Bologne ici, ce n'est pas, c'est pas si difficile que ça. Là. Mais je me suis dit, dans le fond, personne m'a demandé qu'est-ce que ça faisait là. Mm-hmm. Alors que même moi, en fait, je savais pas vraiment qu'est-ce que ça faisait là. Et puis je me suis dit, quand je vais me mettre à écrire un autre livre, il va falloir que ce soit ça le point de départ. C'est-à-dire, que ça soit. Donc moi, j'ai eu un titre. Mm-hmm. Avant d'avoir tout le reste. Donc, c'est vraiment, je me suis dit, OK, le prochain, j'étais obligé de l'appeler Pourquoi Bologne? Mais là, après, je ne sais pas qu'est-ce que ça va raconter.
Il n'y avait pas encore le projet Bologne, là. Il n'y avait pas
non.
Dans la mise en abîme.
Non, okay, c'est d'accord. Ça, okay. C'est ça. Donc, okay, c'est tout un peu, on retisse tout. Puis je ris depuis tantôt parce qu'on travaille ensemble sur le déclin de l'Empire américain, puis j'entends, c'est-à-dire dans ce que je dis, toutes les manières dont j'ai gardé ce travail-là aussi, dans le fond, dans chacun des projets, c'est de laisser des fils tomber, des fils un peu tirés pour le livre d'après, pour tirer sur ce fil-là, puis tout ça. Puis dans Bologne aussi, il y a plein de fils que je décide si je les tire ou non pour les prochains textes, mais c'est sûr que moi j'ai un horizon sur un peu qu'est-ce qui me reste à faire ou qu'est-ce que j'ai à dire, tout ça, mais donc ce que je raconte dans le roman, c'est que après avoir fait ce travail d'introspection là, j'ai réalisé en fait que avant même de publier ma Tamande numéro 29, je m'étais retrouvé dans une soirée où j'étais à côté d'un gars qui arrêtait pas, donc il avait trouvé comme pick-up line, c'est un peu bizarre, mais tu sais, comme le fait de citer Umberto Eco sans arrêt, puis parler de la ville de Bologne.
Oui, t'en parles dedans.
C'est ça. Et puis, ça m'avait vraiment troublé que ce soit ça. C'est ça, exactement. Tu sais, je trouvais ça bizarre, puis il insistait, puis c'est un grand sémiologue de l'Université de Bologne. Et puis, tu sais, il prenait comme un accent comme d'un Italien qui parle français, mais tu sais, il avait grandi, je sais pas, dans Chaudière-Appalaches ou un truc comme ça, tu sais. Tu sais, fait que c'était très bizarre, puis je pense que c'est ça qui m'avait hanté. Et puis, dans le fond, c'est un peu ça qui fait en sorte que Umberto Eco s'est comme invité dans le livre, parce que il devient un personnage. Donc, c'est un peu les trucs, c'est un peu du bricolage. Hein, mais le problème, c'est... le problème, en tout cas, pour moi, c'est de ne pas assumer le bricolage tant qu'il génère pas sa propre cohérence interne. Mm-hmm. Ça, moi, je veux pas sortir les livres tant que je trouve pas que là, OK, justement, la Bologne, c'est comme elle a pris. Là,
la Bolognaise.
La mortadelle, elle est bien jammée, puis bien dégueulasse, tu sais, parce que c'est ça, moi, c'est un moment de... C'est-à-dire de... Tu sais, je passe d'une émotion à l'autre, c'est-à-dire le rapport de d'impudeur absolue par rapport à mes livres, d'être dégoûté par ce que je fais, puis en même temps d'avoir tellement mis de protection là-dedans que je sais que dans le fond, je suis pas vulnérable, puis m'écœurer, je m'écœure moi-même parce que je suis vulnérable, parce que... Donc, c'est un truc sans fin, mais après, ça revient à ça, c'est-tu beau ou c'est pas beau? C'est comme la seule chose qui me sauve, c'est ça. Comme je me dis, bon, mais moi, je trouve-tu que c'est beau comme quand je vois un film d'un tel ou que je lis un livre d'une telle ou que, tu sais, puis c'est-tu beau ou c'est pas beau? Puis c'est pour ça que j'ai inventé ce dialogue-là avec, avec un producteur. Donc, le titre, c'est ça, la petite histoire. Mais j'ai toujours, j'ai jamais écrit un livre, j'ai jamais commencé à écrire une ligne d'un livre avant d'avoir un titre. Okay. Donc moi, c'est toujours la première ligne que j'écris d'un livre, c'est toujours le titre.
Ça le dit, il y a vraiment une énigme de Bologne, c'est-à-dire il y a les clins d'œil, le mortadelle qui revient sur différentes formes, il y a Umberto Eco qui devient un personnage. Je ne crois pas qu'il draguait lui-même autant que ça, mais.
Je ne l'ai pas connu, alors je ne peux pas. C'est mieux que moi.
Il ressemble plus à un Marcello Mastroianni dans certains films.
Ouais, dans ma version.
C'est ça. Ouais. C'est intéressant. Mais par contre, il y a vraiment une énigme, c'est-à-dire cette fameuse telle funéraire, avec une inscription qui est presque absurde, qui fait que. Il a fait couler beaucoup d'encre. Les alchimistes pensent que c'est une recette alchimiste, la pierre philosophale. D'autres, ils disent que c'est un pur canular.
Ouais.
Et ça, tu l'as mis quand même en plein centre. Est-ce que l'énigme se résume à ça? Parce que sinon, ça serait un petit peu comme chez Hubert Aquin, le cryptogramme d'un prochain épisode, ou encore les références à l'Italie dans l'antiphonaire au 16e siècle. Donc, on peut le voir comme ça, mais...
Ouais.
Ou est-ce que c'est l'énigme va au-delà de ça?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a ce jeu-là, puis c'est sûr que la première personne qui m'a parler, parce que moi, je suis toujours attentif aussi à ce qu'on me dit de mes livres, parce que ça devient de la matière première pour le livre d'après. Et puis, c'est drôle parce que la première personne qui m'a parlé du fait que c'était une question sans point d'interrogation, c'est André Yannoukopoulou.
Ah oui?
Et donc, c'est quand même bizarre, là. Tu sais, comme elle m'a dit, donc, parce que c'est une... elle dit c'est pas une vraie question.
C'est ça.
Mais par ailleurs, l'identité est une question, tout ça. Et donc, c'est sûr que cette énigme-là, donc, qui est justement un fait historique, moi, c'est par Jung que j'ai connu ça, etc., elle m'intéressait parce que justement, elle est là comme stèle aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de savoir si. Quelle est, dans le fond, la résolution. Elle existe comme énigme, puis traverse les âges comme énigme, un peu insoluble. Et puis, moi, je pense que c'est toujours ça, la littérature. Donc, ça m'apparaissait comme intéressant de le penser en ces termes-là, c'est-à-dire de donner quelque chose qui est clos, mais qui va se faire interpréter de mille et une manières. Et qui, à chaque fois, cette interprétation, pour moi, va avoir un statut de vérité. Donc, si la littérature fait plus ça, je sais plus qu'est-ce qui reste... Qu'est-ce qui reste? Je sors de classe, là. J'étais en classe, puis il y avait... on discutait de mille et une choses, justement, avec les étudiants, puis j'ai une étudiante qui fait de la philo à McGill, fait que c'est très analytique, très pragmatique, tout ça. Puis elle me parlait qu'aujourd'hui, ils construisent des mondes avec des logiciels, justement, qui sont des mondes régis par une série de paramètres pour s'assurer, en fait, que les énoncés soient toujours vrais. Et puis, j'ai demandé comment on faisait, puis elle dit, c'est très simple. Dans le fond, il faut retirer de ce monde-là l'ambiguïté puis la temporalité. Puis, j'étais comme, il ne reste pas grand-chose après moi, après, là, tu sais. Donc, c'est contraire, là. T'sais, c'est comme d'y aller à fond dans la temporalité puis à fond dans l'ambiguïté.
De toute façon, tu le relis. C'est-à-dire que cette stèle qui existait vraiment au 16e siècle, près de Bologne, et puis qui a fait tellement couler d'encre, le texte se retrouve, dans la fiction cette fois-ci, se retrouve sur le mur, en fait, sur une pierre gravée de Ravenscrag, où se trouve l'Institut Memorial Allen, où là, il y a toute l'intrigue quand même avec...
Ouais, parce que moi, je trouve, Edwin Cameron, je pense pas que je vais refaire un livre avec plus d'intrigue que ça.
C'est ça. Alors finalement, c'est-à-dire, ça aurait pu être juste, à la limite, et là, ça aurait été un pur canular, de certains sens, dans ton roman, si ça avait été juste là, comme une espèce de cryptogramme, un faux cryptogramme, et puis quand tu vois la tête, mais à la fois, il n'y en a pas de mystère. Mais en réalité, comme tu le relis à ton énigme principale, qui, elle, est quand même le projet Bologne, quand même, qui est un peu le projet Artichoke, de la CIA en collusion avec McGill, je suis en train d'entrer dans ton intrigue. Donc, ça devient vraiment, ça résonne, parce que tu dis, c'est pas juste, autrement dit, un travail un peu d'érudition, comme des fois on reproche à certains profs d'université de faire des romans un peu trop érudits, mais bon, où on tire trop sur les ficelles, sont trop évidentes. Mais là, tout à coup, au contraire, ça rentre dans l'intrigue et Et à mon avis, c'est à lire à plusieurs niveaux, ça.
Ouais, mais moi, c'est parce que je suis devenu prof quand même par accident, là, au sens où c'est jamais, je suis pas un érudit. Moi, je suis pas, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, je suis un praticien. Fait que là, ça a donné qu'il cherchait un praticien, puis ça a donné que j'étais là, mais au sens où, pour moi, c'est important de poser les gestes en écrivain. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun intérêt pour moi à faire en sorte que l'énigme de Bologne, je veux dire, de penser que c'est intéressant parce que je sais quoi l'énigme de Bologne, ce qui est intéressant pour moi, c'est que quelqu'un vive quelque chose quand il se rend à ce moment-là de cette scène-là. Je pense pas qu'on peut parler de scène dans mon travail, mais d'être confronté à ça dans l'espèce de monde que j'ai créé, justement, puis là, de peut-être vivre une émotion ou non, dépendamment de où on est rendu dans cette espèce de circuit que le narrateur opère là, à travers les tuyaux de la ville. Là.
Oui, parce que dans l'intrigue, il y a quand même... Comme tu as dit, il y a une réelle intrigue, il y a des éléments historiques, des faits avérés. Ewen Cameron, et non pas Cameroun, même si on peut y revenir là-dessus, parce qu'à la fin, c'est ça. Ouais. Et qui a vraiment existé. Est-ce qu'il était le rival de Penfield, c'est autre chose, mais il a vraiment été le directeur de cet institut-là. Et il a fait des expériences en mettant ses patients dans des sommeils profonds, avec du LSD, avec les drogues et les électrochocs à leur insu, pour les programmer, déprogrammer. On croirait lire l'orange mécanique.
Ouais, c'est cet univers-là qui a inspiré à l'époque, j'oublie le nom de l'écrivain qui a fait Clockwork Orange, mais c'est-à-dire dès qu'on rentre dans cet univers-là, il y a des tropes qui sont là, puis qu'on visite, puis moi j'ai eu beaucoup d'étrangeté quand j'ai vu Stranger Things sur Netflix, parce que si je me disais, puis je regardais ça avec ma femme, puis elle disait, tu sais, quand même... il y a beaucoup de choses, tu sais. J'ai dit, ouais, mais là, je veux dire, tu sais, si j'étais vraiment un fou furieux, tu sais, comme je fantasmerais pendant 2 minutes sur le fait qu'il est plagié, tu sais. Mais la vérité, c'est que c'est des tropes, tu sais. Fait que, tu sais, le trope, justement, par exemple, de l'hydrothérapie, tu sais, le fait de plonger les gens dans l'eau pour leur faire perdre la conscience, tu sais, comme de l'univers qui les entoure. L'idée de ces docteurs... Dr. Hyde en sarrau blanc, l'idée, dans Stranger Things, c'est assumé aussi que c'est MK Ultra, c'est je sais plus combien d'années que la CIA a passé à développer des stratégies pour déprogrammer les gens, tu sais. Et ça part de Condon, puis de l'idée de pas pouvoir, tu sais, comme assumer que des soldats américains se soient convertis au communisme. Ça part de là, ils se sont dit, bah, s'ils se sont convertis au communisme, c'est nécessairement parce qu'on les a manipulés. Donc, si on les a manipulés, on devrait être en mesure de trouver nous-mêmes, si on veut, la façon de manipuler pour que nous aussi, on puisse envoyer des... Sauf que c'est qui est manipulé? Il y en a peut-être d'autres. Puis là, c'est le fantasme de Condon, c'est que le vice-président soit lui-même un agent dormant. Là. Il y a un nom pour ça, là, sleeper cell, un peu. Là, l'idée d'être une cellule dormante qui peut s'activer à tout moment. Là. Je trouve ça beau aussi, comme métaphore aussi.
Parce que moi, encore là, tu vois, tu m'as fait travailler beaucoup. Hein. J'allais sur Internet pour trouver qu'est-ce qui était historique, qu'est-ce qui était des faits historiques, qu'est-ce qui était inventé, puis c'est pas toujours facile même de le trouver. Mais comme Cameron, au début, moi, j'ai convaincu que tu l'avais inventé.
Ah ouais?
Ah oui. Okay. Parce que moi, je connais pas ben l'histoire de la Royal Vic, puis etc. Ouais. Alors là, j'allais faire des recherches, je me suis dit, moi, non, il a vraiment existé. Oui, il était là à cette époque-là. Et donc, je me rends compte que tu travailles beaucoup sur l'histoire avec le grand H, puis ensuite avec ton histoire personnelle, l'autofiction, et tout ça est vraiment imbriqué. Ouais. Là, il y a quelque chose qui me rappelle un peu la façon de travailler d'Aquin, même si on est dans un autre univers.
Ouais. Mais je m'étais vraiment posé, je pense, je l'ai peut-être dit à Tara à l'époque, tu te souviens quand t'es venu avec ta maman au salon du livre, j'étais tout ému. Justement, je les connaissais pas, par leur nom. Et moi, c'était vraiment, j'arrêtais pas de me dire comment on ferait le prochain épisode aujourd'hui. Tu sais, comme c'était encore là, que je voulais faire le prochain épisode, mais c'est que je me disais, c'est comment aujourd'hui qu'on raconte cette histoire-là d'internement, hein? Comment on raconte cette histoire-là de révolution, comment on raconte cette histoire-là de cette histoire très baroque, dans le fond, comment on peut être baroque, dans le fond, aujourd'hui? Donc, il y avait...
C'est vraiment baroque aussi, oui.
C'est ça. Donc, c'est parti de là, puis après... T'sais, il se trouve que Akin a lui-même mis en scène, c'est-à-dire a fait des scènes sur le campus de McGill, là. C'est plus dans trop mémoire, mais qu'il y a une constellation comme ça. Mais moi, ça me. C'est-à-dire, c'est pas toujours de la citation. C'est que ça se passe comme ça parce que si tu commences à te mettre dans un certain état d'esprit, que tu travailles avec certaines références, ben là, il y a tout un patrimoine qui vient avec ça. Puis que tu réactives sans le savoir.
C'est ça. Ça m'a frappé parce que parlons un peu des références culturelles, justement. Il y en a plusieurs, mais il y a trois grands groupes que j'ai pu voir. Le cinéma, évidemment, la Dolce Vita devient même une des parties.
Ouais.
Le film est inscrit dans le roman, Blade Runners. Mais il y a des clins d'œil, il y a plein d'autres films aussi là, qui ne sont pas élaborés, mais qui sont en passant. En musique, le fameux CD de hip-hop, moi je ne suis pas un fan de hip-hop personnellement, mais encore tu m'as fait travailler, parce que le Wu-Tang Clan au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit un truc chinois Tao que je ne connais pas. Et ben non, c'est 36 Chambers, c'est vraiment leur album, et ça devient aussi une partie du récit. Évidemment, c'est des énigmes aussi, c'est des indices, parce que Salomé refile un essai de Carrère à ton narrateur. Ensuite, le CD, et elle a dit, si tu avais compris, si tu avais écouté, si tu avais lu, tu saurais à quoi t'attendre. T'sais. Donc, en même temps, ça tu joues sur les codes là, du roman d'enquête et lui, il n'a pas compris, etc. Et finalement, la littérature, ben là, il y en aurait beaucoup. Edgar Allan Poe, surtout dans la première partie, dans Raven's Crag. Et tu joues avec Corbeau, Corneille, etc. Ensuite, évidemment, Umberto Eco, puisqu'il devient même personnage. Et Hubert Aquin, c'est c'est une des références qui, à part deux endroits dans le texte où c'est vraiment explicite, c'est plutôt des clins d'œil. Et moi, j'ai trouvé des clins d'œil à tous les romans, finalement. Peut-être pas l'invention de la mort, mais finalement... Et donc, c'est comme si c'était un relais. Encore là, peut-être entendre parler un peu sur comment se travaille avec toutes ces références-là.
Ben, encore là, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exogènes, là. C'est-à-dire que c'est des... c'est-à-dire c'est... Parce qu'il nous arrive beaucoup de choses dans notre vie, c'est-à-dire, puis la littérature, ou ce qu'on appelle parfois l'autofiction, s'occupe beaucoup des événements, c'est-à-dire, il m'est arrivé ici, j'ai perdu quelqu'un, j'ai aimé telle personne, j'ai eu un enfant, je me suis cassé une jambe, tout ça, mais... C'est rare qu'on considère comme événement fondamental dans une vie la rencontre des œuvres.
D'avoir lu.
C'est ça. J'ai lu tel truc, j'ai écouté tel album, j'ai vu tel film. Puis pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est de rendre, de prendre acte, c'est-à-dire de ces rencontres-là qui ont été déterminantes pour moi. Et puis, c'est pour ça que c'est un livre aussi qui est un hommage à toutes ces formes-là qui justement moi m'ont nourri, puis dans le fond qui j'espère déploie un peu de, c'est-à-dire que j'emprunte en écho leur puissance pour justement en trouver une qui soit la mienne, mais c'est-à-dire que ça part de là, c'est-à-dire c'est des ouvrages, c'est ce que les choses que je cite directement, c'est que ça a été des moments importants pour moi, mais c'est ceux-là que j'ai choisi parmi les moments importants que j'ai eus, parce que je trouvais qu'ils servaient bien la cause donc de mon roman. Donc, que ce soit, donc, tu parles de Fellini, donc cette figure-là de Marcello, d'un peu de noceur, de beau gosse, de ci, de ça, en complet, machin, c'est sûr qu'elle est fantasmatique pour le narrateur. Donc Blade Runner, c'est pour tout l'univers un peu dystopique, tout ça. Bon, Carrère, la présence de Carrère est là, mais par un biais qui est celui quand Carrère décide d'être biographe. Donc c'est pas le biographe, c'est pas le Carrère romancier, non. Ou le je sais pas le gars qui fait de la non-fiction,
tu sais,
c'est sa passion pour Dick, donc c'est lui-même, c'est, et puis 36 Chambers du Wu-Tang Clan, c'est justement, c'est le fait aussi de montrer comment l'appropriation elle peut se faire de manière tellement baroque, parce que là, quand on pense à ce qu'est Wu-Tang Clan, c'est quand même une gang de rappeurs de la côte Est qui décide de s'approprier tout l'univers des films de samouraïs. Oui. Donc y a comme, pour moi, il y a quelque chose comme de tellement improbable là-dedans, mais en même temps, il y a plus personne qui a besoin de se poser la question sur ce qu'est le Wu-Tang Clan. C'est comme, tu sais, c'est le Wu-Tang Clan, c'est un genre en soi, tu sais. Puis c'est sûr que c'est tantôt tu, c'est comme, je vais le relever là. Pis, si c'était pas ça que tu voulais dire, ben là, c'est moi qui ai l'air imbécile. Mais c'est de dire bon ben c'est pas si grave quel genre c'est. Si c'est un livre signé par ce gars-là, on sait que ça va être cette affaire-là. T'sais, on sait pas trop c'est quoi, mais ça va être cette affaire-là. Puis ça, je peux-tu maintenir ça? Puis ça, c'est moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Okay. De dire, est-ce que je vais... T'sais, comme c'est quand est-ce que je vais avoir sell out? T'sais? C'est quand est-ce que je vais m'être vendu? Puis à chaque livre, j'ai toujours peur que ce soit avec celui-là.
OK.
Puis
là, on a dit baroque, mais tu sais aussi, on peut dire postmoderne. Mais là, si on dit postmoderne, on va dire c'est du postmoderne nostalgique, parce que c'est le postmoderne rétro et non pas le postmoderne parce que ça n'existe plus. Bon. Alors, il y a tellement de.
Ah, ça n'existe plus, c'est fini.
Non, apparemment que c'est fini. C'est peut-être
mais
pour
c'est
ça.
C'est quoi maintenant?
Bon, pff, ouais, c'est on parle de post-postmoderne.
Ça n'a jamais
existé. Alors, non, une autre affaire qui m'a frappé, effectivement, c'est par contre, tu le mentionnes tantôt, c'est vrai que dans le trou de mémoire, le fameux viol de Jones a fait à McGill dans le laboratoire et tout, mais McGill n'existe pas énormément dans la littérature, en tout cas québécoise francophone. Évidemment, du côté canadien-anglais, j'imagine qu'on en trouverait plus. Mm-hmm. Et là, ce qui m'a fasciné aussi dans ce roman-là, c'est comment tu fais exister ce lieu-là comme un lieu qui peut faire fantasmer.
Mm-hmm.
Un lieu qui se prête à la fiction. Évidemment, alors, quand tu y penses, nous, en Université de Montréal, là, tu sais, à part l'Oratoire Saint-Joseph, à part la Tour Phallique,
c'est un gros morceau quand même.
C'est un gros morceau, mais oui, mais. Alors, vous avez du néo-gothique, du néo-renaissant, vous avez beaucoup de pseudo-néo, mais c'est quand même un corpus comme ça. Théorie, ça crée une fiction autour du réservoir McTavish.
Qui est un lieu qu'on ne voit pas.
Ouais, c'est ça. Maintenant que je le sais, grâce à toi, je le sais maintenant exactement où il est, puis il y a cette esplanade dont je ne comprenais pas cette grande disparte, mais c'est parce qu'il y a un réservoir qui communique, évidemment, dans l'histoire avec la piscine où il y a les expériences dans Raven's Crag. Alors là, finalement, ce lieu-là, dont on ne croirait pas qu'il peut ouvrir autant de pistes, parce que là, je m'avance peut-être, je me hasarde un peu trop, à l'imagination, devient tout à coup très riche. Alors, est-ce que ça, évidemment, tu t'es retrouvé, tu avais commencé le roman un petit peu avant que tu sois à McGill, tu étais à McGill. Dans le roman, le professeur écrit ce roman-là pendant qu'il est... En fait, il confie à son adjointe, celle qui est censée écrire le roman, alors que lui, il dit, moi, j'écris seulement plus jamais, qui est la dernière partie, on va y revenir. Alors, il y a tout un jeu, là, aussi, là.
Ouais.
Mais McGill, là, est-ce que c'est d'être à McGill que tout à coup, ça a pris autant de...
Mais moi, je n'étais jamais rentré à McGill de ma vie avant d'aller à l'entretien d'embauche.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, je suis Montréalais. Fait qu'il y avait, c'est-à-dire, il y avait ce rapport-là, c'est-à-dire à un lieu qui est clos, qui est mystérieux, qui est chargé, tout ça, d'une histoire. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment l'impression, là, ça va, l'air, c'est une vérité de la palisse, mais qu'on peut, si on travaille bien, être capable de rendre tout trippant, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, mais c'est sûr que là, ça fitait bien avec ce dont j'avais envie parce que, tu sais, comme justement, tu sais, il y a quelque chose qui nous enlève dans la face, qui nous raconte un autre Montréal que le Montréal que moi, par exemple, j'ai pu connaître étant né ici puis ayant circulé dans d'autres quartiers. Mais après, je t'assure que mon prochain livre, il se passe sur le campus de l'Université de Montréal. c'est pour ça que...
on va lui faire découvrir peut-être autre chose qu'on voit plus de nous à l'UDM. Ouais. Mais j'aurais jamais pensé que ce lieu-là aurait pu être aussi investi sur le plan fantasmatique. C'est surtout ça qui me frappe, la façon dont...
Ben, c'est qu'il y a plusieurs lieux que j'ai juste, dans le fond, agencé de manière à ce qu'il y ait une sorte de connexion là, pour le coup, même avec des tuyaux, ben
oui,
tout ça.
C'est ça.
Puis dans une temporalité longue, c'est-à-dire que quand on pense à Alan, dans le fond, qui construit ce manoir-là, tu sais, il construit le manoir en faisant une tour pour être capable de voir ses propres bateaux, parce que c'est un grand propriétaire de flotte, etc. Et puis, tu sais, quand on raconte ça, on raconte dans le fond de Montréal, la partie Montréal qui est fondée par des Écossais. Quand on parle de ça, ça nous ramène il y a 200 ans. Et puis là, il y a comme toutes sortes de superpositions qui se manifestent, mais Je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est ça qui a aidé mon livre aussi à circuler, c'est qu'il propose une autre expérience de Montréal, puis d'un lieu qu'on connaît moins. Puis après, comme l'affaire qui est le fun, c'est que je pense pas que. Puis il y a du monde qui m'avait envoyé ça à un moment donné, des photos, tout ça, de quand on va aller visiter. On va pas être déçu, c'est-à-dire c'est bien mieux en vrai,
Oui.
c'est bien plus beau, c'est bien plus bizarre, c'est bien plus puis après moi pour le roman je suis descendu dans le réservoir, j'ai fait
J'imagine,
des trucs,
c'est ça.
que là tu te dis ok waouh ça existe, mais je veux dire
C'est ça, tu nous fais découvrir toute une autre, pas juste McGill, mais qu'est-ce qui est en dessous de McGill qu'on
c'est
connaît pas,
ça c'est
qu'on connaît
ça
pas nous, en tout
puis
cas en général,
c'est pour ça
non.
moi je pense que je sais pas si ton papier de fond va être en psychanalyse, mais moi j'attends la lecture
il va y
psychanalytique.
avoir, il va y avoir
Parce
des éléments,
que
c'est
c'est vraiment
certain.
ça, là, le truc. Moi, c'est quand je relis ça, je suis comme.
Ouais, ça va être plus psyché, oui, que sociocritique dans ce cas-ci, certainement. Oui. Oui, on se promène dans le labyrinthe et tout. Enfin, et puis, ça te permet aussi, je pense, parce que la seule chose que je n'ai pas réussi à repérer, c'est si effectivement Edgar Allan Poe a déjà, à mon avis, ça s'est inventé,
Non,
effectivement. Mais ça
c'est
t'a permis quand même de faire
C'est
avec
ça.
Ravenscraig.
Ben, je m'appelle Alain, là, en
C'est
plus.
ça, en plus.
C'est
Alain, c'est ça.
Alain
Ah,
Memorial,
merci,
tout
ça,
ça.
j'avais pas repéré Alain. Fait que ça, je vais, ça va
Ah,
être
ouais,
dans
c'est
les
ça.
articles. Ouais, parce qu'il y aurait tellement d'autres choses, mais je pense que.
Est-ce que vous l'avez lu ou Tara l'a lu, j'imagine,
J'imagine
mais.
que oui.
OK, ouais, c'est correct.
Parce qu'on va ouvrir, on va certainement
Mais il n'est
ouvrir.
pas dans un cours ou un truc en ce moment-là.
Non, le cours, le séminaire qu'on
Dans
a
la
eu.
liste des
Ouais.
livres qui pouvaient
Oui,
être
Stéphanie, elle
choisis.
avait
Ouais.
fait un exposé
C'est ça, parce que des fois, il y a des moments où il est étudié, fait que là, il y a des. Puis, comme je te parlais de temporalité longue, c'est que c'est sûr que c'est un livre qui demande ça. Puis, moi, mon pari, c'était toujours d'être capable qu'il supporte l'épreuve de la lecture. T'sais. C'est-à-dire, OK, ben, si je commence à tirer, qu'est-ce que. T'sais, il faut que je pense à si quelqu'un tire cette affaire-là. Donc, souvent, il est mis à l'UQTR dans un cours de narration. Puis, je vais dans les classes à la fin de la session. Puis, c'est trippant parce que ils sont 50, 60. Puis là, il arrive avec toutes sortes d'hypothèses de lecture que moi, j'ai pas entrevues, tout ça. Puis, qui me font triper aussi parce que là, ça invente, là, ça invente une machine là,
C'est ça.
qui.
Parce que il y a le jeu, j'en ai pas parlé, mais il y a le jeu sur la temporalité, évidemment, parce qu'on est en 1962 puis 1900, 2012, puis il y a même d'autres temporalités, mais ça, c'est les deux grandes
Ouais.
lignes temporelles, parce que j'en parle maintenant, parce qu'on va faire aussi un lien avec la ligne la plus sombre, parce que là, il
Ouais.
y a trois lignes temporelles
Ouais.
évoquées. Et donc, un travail aussi que, là aussi, Akin fait, par exemple, dans l'Antiphonaire, plutôt, là,
Ouais.
t'sais, avec l'Italie du 16e siècle, puis la période contemporaine, puis les récits s'alternent, mais à un moment donné, il y a des moments dans le roman où tu dis, on est en synchronie, là, mais dans une
Ouais.
espèce de temps qui n'est hors temps, là.
Ouais.
Donc toi aussi, tu fais un peu ça, mais d'une façon différente. Donc.
Ouais. Ah, mais ça, c'est parti, puis elle le sait, puis ça la fera sourire, ça l'aurait fait sourire si elle était là, mais c'était parti d'une discussion, justement, avec Nadine Bismuth, donc,
OK.
qui a toute une autre manière de travailler, puis qui travaille beaucoup maintenant en scénarisation, tout ça. Et puis, je lui disais, ah, je suis vraiment hyper emmerdé avec ce projet-là, parce que là, faut vraiment que je déplace mes affaires dans les années 60, puis ça me tente vraiment pas d'écrire un livre. C'est-à-dire, c'est comme les cinéastes là, qui font des films en costume, là, t'sais, d'époque, là, t'sais, ça me tentait pas pantoute là, de faire ça. T'sais. Puis elle m'avait dit quelque chose comme ouais, mais t'sais, t'as pas le choix. T'sais. Puis moi, j'ai fait, oh non, j'ai le choix. Dans le fond, t'sais, comme je veux, t'sais, comme j'ai pas envie de ça. Fait que c'était comme un peu par là que c'est parti. Je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? T'sais? Qu'est-ce que ça veut dire de faire cohabiter deux temporalités? Puis quel rapport à l'histoire ça induit? Puis c'est un peu, puis justement, je parlais du déclin qu'on est en train de faire, tu sais. C'est un peu ça, mon hypothèse de départ, tu sais. C'est-à-dire que c'est de pas penser en termes de déclin, justement, tu sais. Si je tire cette affaire-là, puis si je fais un déclin de l'Empire américain dans lequel le déclin, ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est une vue de l'esprit, puis je vais reprendre la citation de Foucault, hein, l'optimisme en pensée, c'est justement. L'optimisme en pensée consiste à ne pas penser le monde en termes d'âge d'or et de déclin, là, tu sais, comme qu'est-ce que ça fait sur tout l'ensemble, tu sais. Puis dans ce cas-là, il s'effrite complètement. Fait que c'est la merde. Mais c'est ça qui est le fun. OK, là, j'ai brisé l'affaire, là, OK, comme là, faut que je recommence, là. OK, par où, quel bout je dois placer comment, puis tout ça, tu sais. Fait que dans le fond, à partir du moment où justement, j'ai dit non, 62 puis 2012, ça arrive en même temps.
C'est ça.
qu'est-ce qui se passe pour moi? Puis là, c'est comme, OK, il y a beaucoup de moments de détresse là, à partir de là, là parce que c'est comme, OK, là, comment je vais me sortir de ça, tu sais? Mais je pense que chaque livre, en tout cas pour moi, il doit m'amener à ce moment-là, de comme, OK, là je suis fini, tu sais? C'est comme, je m'en sortirai pas. Là, je me suis mis dans une position dans laquelle c'est comme, c'est impossible de m'en sortir, je le ferai pas, et donc... j'en ferai plus. Puis il y a tout le temps cette menace-là qui est là, puis c'est pour ça que je parle de psychanalyse, c'est que je m'imagine qu'il y a quelque chose qui doit être en jeu là, que j'ignore puis que je comprends pas, mais vraiment l'idée de jouer sa vie à chaque fois.
Il y a le passage à la fin qui dit on a toujours programmé pour du présent vers le passé, alors qu'il faut faire le contraire, et d'un certain sens, tu mimes ça, là, parce qu'au début, quand on commence à le lire, le roman est publié en 2013, le narrateur regarde un film japonais d'une série mal traduite et futuriste, mais qui est en 2012. J'ai dit, non, ça peut pas, on est dans le passé, mais non, si on est en 62, c'est futuriste. Alors là, on se rend pas compte qu'on est déjà en 62, ou en fait, potentiellement 62 dès le début, et qu'en réalité, on est dans un récit d'anticipation au tout début, mais en réalité, après ça, on se rend compte que non, c'est aussi rétrospectif. C'est peut-être pour ça qu'on a parlé aussi de science-fiction rétro. Bref, c'est vrai, ce jeu-là est quand même très habile.
Oui, mais ça part quand même d'une confusion. C'est-à-dire que ça part d'un rapport au temps qui n'est pas un temps linéaire.
Non,
moi, c'est sûr. Mais c'est, moi, c'est mon expérience du temps n'est pas linéaire. Puis ça me frappe tellement à chaque fois comment... Finalement, il n'y a pas grand monde qui ont pas une expérience du temps linéaire. Fait qu'est-ce que c'est parce que j'ai trop... je sais pas, j'ai eu des mauvaises fréquentations, je sais pas quoi, mais j'arrive pas, moi, à comprendre comment on peut resservir aux gens... Tu sais, comme Forever and After, c'est comme l'exposition, l'élément déclencheur, le si, le... Tu sais, comme... Je comprends pas. C'est vraiment juste. C'est pas. Y a pas de jugement de valeur là. C'est la pure incompréhension. Ce qui fait que récemment, justement, j'étais dans une émission donc de variété pour parler de du roman graphique. Puis l'animateur que j'aime bien me disait grosso modo, je comprends pas. Tu sais. Puis cet animateur là anime une émission là, où les gens font des chorégraphies de danse. Tu sais. Fait que j'ai dit, mais moi non plus, je comprends pas le show de danse. Je comprends pas les dieux de la danse. T'sais, c'est comme, fait tu sais, on est correct, tu sais, c'est qu'on est quitte, tu sais. Tu sais, je comprends, tu sais, tu comprends pas, puis je comprends pas, puis je suis vraiment sincère que je comprends pas. Tu sais, comme au sens où, ben là, tu sais, là, il faut commencer à parler d'industrie culturelle, il faut parler de ci, il faut parler de ça, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire faire une œuvre? T'sais, comme faire œuvre. Moi, c'est une question qui me préoccupe. C'est une question de temporalité, d'ailleurs. T'sais. C'est comme, comment tu peux t'inscrire dans ton temps? Puis c'est pour ça que je suis toujours menacé de... La menace, c'est toujours d'arrêter, parce que j'ai l'impression que le moment où je vais sentir que... Donc, soit je vais être vendu, soit je vais avoir raté, ça, mais je vais être mort, ou je sais pas, mais c'est comme... C'est ça, moi, qui me préoccupe, tu sais.
Écoute, dans le roman, avant de faire encore ce lien-là, puis cette dernière question sur le roman, moi, je me suis beaucoup amusé, mais en même temps, j'ai toujours senti aussi tout le long du roman qu'il y a aussi un fond grave dans ce roman-là. Et la dernière partie, c'est vraiment là que ça ressort le plus, parce que c'était très court, hein, plus jamais. Et ça, c'est le roman que lui est censé être en train d'écrire.
Ouais.
Alors que l'adjointe est censée être occupée de l'autre roman qu'il ne veut pas écrire, qui serait celui-là. Bon, OK, laissons ça. Et là, tout à coup, ça devient très, très, très tragique, je dirais, très lourd, la dernière partie. Là, c'est un témoignage d'une victime potentielle. Peut-être ça s'est inventé. Je veux que tu gardes tes ondes d'ombre. Mais il y a eu des personnes qui ont été dédommagées ensuite, mais qui ont été des victimes de ce système-là de Cameron. Sauf qu'elle, quand elle en parle à la fin, même si c'est jamais plus non, elle dit toujours Cameroun. Elle a fait l'erreur de dire Cameroun. Hein? Donc, c'est un lecteur quand même qui... et alors que Cameron avait corrigé au début en disant « Non, c'est pas Cameroun, c'est Cameron. Toi, ton personnage. » Et puis elle, au contraire, elle dit Cameroun. Donc, tu dis « Oui, ça serait un témoignage véridique, mais en même temps, on peut y croire, même si on sait qu'il y a eu des cas comme ça. » Et là, ça devient vraiment... même triste, je te dirais. Là.
Ah oui, c'est sûr.
Vraiment, à la fin, on est désemparés. Là.
Ouais. Moi, je pense que la fin m'a coûté beaucoup de lecteurs.
Ah oui?
Parce qu'il y a plein de monde qui m'ont dit, ah, t'sais, vous n'êtes pas rendu là, mais c'est vraiment à la fin, ils m'ont dit, ah, j'ai pas aimé la fin, j'ai pas compris la fin. J'ai pas... Puis, alors que moi, c'est vraiment, j'y tenais tellement à cette fin-là, ouais. Puis
je comprends.
Vite j'ai compris pourquoi je voulais le finir comme ça. Mais ce qui est hallucinant, c'est que j'ai fait le devoir des écrivains, ça devait être en 2011, fait que j'étais à peu près à mi-chemin du travail. Et puis, comme je fais souvent, je lance, c'est-à-dire, je lance des ballons, tu sais, j'essaie des affaires, puis j'ai fait, donc, c'est comme je faisais la chronique des sports, là, tu sais.
Oui.
Fait que comment c'est arrivé, comment c'est arrivé, je sais pas, tu sais, mais l'incipit de Matamor 99, c'est tout m'arrive. Fait que, tu sais, comme, c'est pas tout m'avale, c'est tout m'arrive. Donc, là, je fais ce papier-là dans le cahier des sports, puis je sais pas, je parle du Canadien de Montréal ou je sais pas quoi, mais là, les gens au devoir, ils me demandent une notice biographique, puis je leur dis, marquez juste, Alain Farah est écrivain, il travaille un roman sur les liens entre McGill et la CIA.
C'est ça.
Et je sais pas, c'était-tu un mardi que c'est paru, le mercredi, Éric Darochelière au Cartanier a été appelé. Ça, c'est vrai, là, tu sais. Elle a été appelée par une dame qui voulait me rencontrer parce qu'elle avait des documents pour moi. Puis, tu sais, puis c'est vrai, là, tu sais, je le jure sur la tête de mes enfants, là. Tu sais, comme, je veux dire... Et puis là, c'est comme... Là, moi, j'ai été vraiment emmerdé, là, parce que je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est exactement ça que je voulais, tu sais. Je voulais que quelque chose comme ça arrive. C'est ça, puis là, ça arrive, puis c'est ça. T'es comme, OK, qu'est-ce que je fais? Comment, tu sais, quelle éthique, quelle ci, quelle ça, puis fait donc, c'est là qu'a commencé, parce qu'elle a toujours voulu que je dise son nom, ce que j'ai pas fait dans le livre pour d'autres raisons, mais j'ai rencontré une dame qui s'appelle Christine Tremblay, et qui, c'est vraiment un pacte, m'a dit, je vais vous raconter mon histoire, mais à condition que mon histoire, ben, vous la citiez, que vous mettiez mon nom, que, tu sais, comme il y a une série de conditions, qu'évidemment, j'ai trahi une après l'autre, tu sais, comme parce que finalement, c'était pas ça le régime, ben, dans lequel j'y pouvais être, même juridiquement, tu sais, puis même mon éditeur, tout ça était pas, ça a été très compliqué. Mais, donc, j'ai eu une correspondance longtemps avec cette madame, là, jusqu'à ce que on trouve que c'était le moment pour se rencontrer. Et donc, mais je suis pas allé là tout seul. Là. J'ai amené non pas une assistante, mais un assistant donc, qui est allé avec moi, un étudiant qui travaillait avec moi à l'époque. Et puis on est allé, puis ça a duré 3h30 de temps. C'était à Belœil, elle était borgne. Donc, je sais pas si j'ai gardé ça. Oui. Donc, il lui manquait un œil, puis on était à Belœil. Tu sais, ça dans
elle est aveugle complètement.
Puis elle a parlé 3h30 non-stop des expériences que la CIA ont fait sur elle. Et puis, on est sortis de là, puis on s'est vraiment regardé les deux, puis on s'est dit, penses-tu que c'est vrai? Puis, tu sais, comme on s'est dit, OK, on dit 1, 2, 3, puis on se dit, nous les deux, en même temps, si on pense que c'est vrai ou non. Puis on avait 1, 2, 3, puis les deux, on a dit, non. Tu sais, c'est comme, c'est pas vrai, tu sais, comme. Mais, tu sais, comme, elle s'est raconté une histoire impossible, parce que, dans le fond, elle, ça... Ce qu'elle mettait beaucoup de l'avant, qui était vraiment super dur pour moi à recevoir, donc dans la correspondance, puis après dans la rencontre, puis dans le suivi aussi, jusqu'à ce que le livre paraisse. Et j'étais allé à Tout le monde en parle aussi avec ça, là.
Ouais.
Tu sais, fait qu'elle avait vu Tout le monde en parle, puis tout, tu sais. Donc, elle était comme, ouais, vous avez pas dit mon nom, tu sais, peut-être au montage, je dis non, Madame Tremblay, je vous ai expliqué, je peux pas vous dire votre nom, tu sais, comme. Puis, elle, dans le fond, c'est qu'elle dit que c'était une enfant, tu sais, qui a subi ça, tu sais.
Oui.
Tu sais, donc, puis ça, on a fait des recherches, on a essayé de trouver, tu sais, mais il n'y a jamais eu d'enfant techniquement victime de Cameron.
C'est ça.
Fait que là, c'est là aussi que ça m'a tout amené à une réflexion, c'est comme, pourquoi cette histoire-là, elle en avait besoin, tu sais? Oui. Parce que je pense que tous les abus, tout ce qui est dit est vrai.
Oui.
Tu sais, mais l'aspect qui probablement est purement fantasmatique, c'est le fait que c'est la CIA qui met de l'ordre là-dedans.
C'est ça.
T'sais? Mais le vrai scandale, c'est les abus.
C'est ça, j'ai l'impression que c'est ça, effectivement, comme tu dis. Mais le fait que tu aies dit dans l'entrevue que tu travaillais sur les liens entre... C'est ça qui a été pour elle le déclencheur, c'est ça. Et pourtant, quand on le lit, nous, là, comme, sans savoir ça, c'est la partie qui paraît la plus témoignage réel.
Ouais.
En même temps, on se dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis moi, c'est Cameroun.
Oui, bien, c'est Cameroun, sûr, ça, j'ai Cameroun, fait ça après. Cameroun. Mais je pense que j'en parle de cette expérience-là.
C'est un clin d'œil à nous, lecteurs, pour dire attention, ça paraît vrai, mais c'est trafiqué.
Oui, c'est sûr que c'est trafiqué, mais c'est-à-dire que c'est que ça doit servir mon livre.
Tu vois, tu m'as fait travailler beaucoup. Hein,
ouais, ouais. Mais c'est que j'essaie de voir, parce que je sais que je la raconte à l'intérieur du livre, cette histoire-là de madame qui communique avec moi.
Oui. Puis à la fin, ben, c'est son témoignage comme tel.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'était vraiment...
Mais quand ça arrive à la fin, on s'y attend pas, là, parce que c'est très court. Et là, tout à coup, le ton devient grave et même, je dirais, tragique.
Oui, ouais, ben, c'est le pathos aussi auquel le narrateur n'est pas capable de s'adonner aussi.
Mm-hmm. C'est ça. T'sais. Parce que lui, il a toujours une façon de désamorcer un peu
ouais,
les choses.
Tout dans la forfanterie.
Ouais.
C'est dans la forfanterie.
Il est bon là-dedans, lui.
Ouais, c'est ça. Ce qui fait que le monde, il y a du monde qui n'a pas aimé ça parce qu'ils sont comme, ils ont pris ça au premier degré jusqu'à un certain point. Au...
Mais je pense qu'il faut le lire au premier ou au deuxième degré.
Oui, c'est sûr.
Il faut le lire au deux degrés.
C'est sûr, sauf que c'est ça. C'est pas juste. Mais, je sais pas, on sait pas ce qu'on fait. Hein,
tu nous fais travailler comme... à la fin. Hein? Tu nous fais travailler les lecteurs, en tout cas.
Bon, on n'est pas dans le moment où on aime travailler en même temps, donc c'est peut-être ça aussi qui explique, je sais pas, mes chiffres de vente, mais bon. Hein, mes chiffres de vente, hein, les gens dans la librairie, là, ils savent comment je suis obsédé par ça. Obsédé par les chiffres de vente. Je demande à toutes les semaines.
Je parlerai après d'une autre énigme Bologne, mais pas en huis clos après.
Demande à Turcotte,
c'est vrai, j'appelle. Turcotte.
Combien de réassorts, combien de ci, combien de ça. Mais ça, c'est le Liban en moi, là. Non, mais c'est vrai, ça, c'est une autre histoire. Là.
Si on va arriver dans le Liban, on y arrive. Oui, alors, Liban, si on sort du roman, si on sort un peu du roman, parce qu'il y aura certainement d'autres questions après, commentaires, mais je dis quand même quelques mots sur le tout nouveau, le roman graphique, la ligne la plus sombre.
Ce serait un...
Alors, il y a des liens évidemment à faire avec Pourquoi Bologne. Il y a Akin en particulier revient. Ouais. Cette fois, c'est Faubon. Hein? C'est plutôt le film de Faubon qui est dedans. Ce que je trouve intéressant, c'est en noir et blanc. Et quand le rouge apparaît pour la première fois, c'est les carrés rouges. C'est le rappel du printemps érable.
Ouais, qui est déjà pas mal là ici.
Oui, tu as aussi ton homard. Alors. Je me demande peut-être
d'entendre
plus
sur. Hein?
Oui, cuit, ouais, ben oui, il est bien cuit. Pas tellement les références, cette fois-ci, on en a parlé, mais le jeu sur les couleurs. Est-ce que c'est, en partant, c'était comme ça ou est-ce que ça s'est dessiné après? Et puis, en le disant, il faudrait que je le relis, je l'ai lu une fois, mais quel est le public qui est visé?
Ouais, ça, c'est. Il faut demander au libraire quel est le public qui est visé.
Visé par cet objet, ce roman graphique. Ouais. Parce que ça pourrait plaire à des jeunes, mais qui ne comprendraient pas tout, qui ne comprendraient à peu près rien, sauf qu'ils pourraient juste s'amuser à le lire, regarder. Mais en même temps, est-ce que ton lectorat habituel va se retrouver là-dedans? Donc, tu sais, je voudrais juste.
Honnêtement, là, j'aimerais tellement être capable de répondre, mais j'ai aucune idée parce que pour moi, l'idée, c'est que c'était quand même une sorte de coda de Pourquoi Bologne, parce que ça a été écrit en même temps, pratiquement. C'est-à-dire que...
Donc, il y a deux temporalités.
Ouais, c'est ça, mais juste le fait que, dans le fond, l'anecdote, là, réelle, parce que la première anecdote, disons, qui a fait office de charpente pour le roman, c'est le fait d'arriver à McGill. Ça, c'est l'espèce de plancher là, sur lequel je vais monter la Babel. Là. Mais ça, l'anecdote, c'est d'être appelé la même semaine par Pauline Marois et par La Pastèque. T'sais, comme... Puis, dans le fond, de me demander comme...
Ouais,
comment je vais me sortir de ce merdier-là, dans un sens, tu sais. Puis de croire pendant un bout que je vais être capable de m'en sortir de cette affaire-là de Pauline Marois, puis d'y aller, puis d'être un agent double, moi aussi, puis d'être capable de négocier tout ça, puis jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai pas la santé pour ça, tu sais. Puis de juste leur dire non, tu sais. Juste comme, je veux pas le faire, votre truc, tu sais. J'ai pas envie de travailler avec vous, dans le fond, tu sais. C'est comme, ça va me tuer, votre affaire, tu sais. Les écrivains, genre, qui se mêlent de la politique, genre, ça finit toujours mal, tu sais. Fait que.
C'est les deux romans graphiques, finalement.
Ouais, mais c'est ça. C'est fait ça. Que je me suis dit, bon, comment, ben, je vais faire ça comme ça, mais j'ai aucune idée, qu'est-ce que, tu sais, comme, à quel public ça s'adresse. C'est pas pensé comme ça. Les gars de La Pastèque ont l'audace puis la générosité de pas y penser comme ça non plus. Mais on était au premier rang des ventes au port de tête en octobre. Fait que je sais pas, mais moi je pense que c'est avant tout pour mes lecteurs. C'est-à-dire, c'est une sorte de cadeau que je me fais puis que je leur fais, c'est-à-dire de tout d'un coup voir ce monde-là illustré jusqu'à un certain point. Mais après... Après, j'ai aucune idée. J'ai mon gars qui veut que je le donne à son prof à l'école primaire. Je suis comme, pas non, tu sais. Puis il dit, mais je veux que tu donnes ta VD. Je suis comme, non, c'est pas une BD, c'est ni une VD. En plus, c'est un roman graphique, tu sais. Fait que, tu sais, mais il y a comme, il y a cette affaire-là où il y avait pour moi aussi une excitation de donner un livre avec des images, ouais. Tu sais. Mm-hmm. Puis là, c'est la même affaire. C'est tout le temps, c'est difficile, on comprend rien, mm-hmm. Ça part dans tous les sens.
Mm-hmm. Ouais, puis il y a plusieurs épisodes qui suivent et qui sont... C'est pas évident de voir les liens entre eux.
C'est ça.
Mais ça, ça relève aussi d'un genre qui est quand même assez représenté au Québec, la bande dessinée autobiographique, là,
ouais.
Autofictive. Mais en même temps, c'est autre chose aussi.
C'est ça, c'est ça. Mais je sais pas...
C'est trop neuf, ça vient de sortir, là.
Ouais, c'est plus angoissant parce que c'est tellement autre chose,
mm-hmm.
que tu sais, on sait jamais pour les livres, on sait jamais, mais ça c'est un objet un peu à côté, tu sais, mais pour moi, puis vraiment c'est comme le déclin de l'Empire américain pour moi, c'est une année pour moi de, où c'est deux commandes.
Et comment t'as travaillé avec Mélanie Bayerger, c'est-à-dire que tu as donné tout le texte puis à l'illustrer ou...
Ben en fait, comment ça fonctionne? Donc, ça a été une commande d'abord de la pastèque. Il a dit, mm-hmm. on aimerait ça, un mm-hmm. livre de toi. Fait que j'ai dit, bon, ben, j'aurais ce projet-là. Fait que c'est ça le texte. Puis après, ils ont dit, bon, ben, avec ce texte-là, on va peut-être se trouver certains types d'artistes.
Mm-hmm.
Quand ils ont trouvé Mélanie, on s'est assis, puis on a discuté. Puis après, là, ça a été des storyboards de son côté, moi, des refonds du texte. L'éditeur qui créait qui séquençait le texte, etc. Mais ça a été un artisanat, mais moi aussi, c'est juste ça qui c'est juste ça qui nous reste aussi, c'est que les aventures littéraires, tu sais, comme ce qui est de l'ordre de la vie dans le monde, de l'œuvre au dehors, ou je ne sais trop, c'est toujours du plus. C'est toujours comme quelque chose qui arrive en plus. Parce que pour moi, il faut que le plaisir, il existe dans le travail.
Okay.
Puis là, justement, j'ai eu super gros du fun à faire ça avec, mm-hmm. avec Mélanie. Le déclin, on tripe, ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus. Tu sais, comme là, un jour, je vais arriver à faire un autre livre, tu sais, je vais me remettre à la table avec mon éditeur, on va retriper. Puis après, le monde, il embarque tout ou il embarque pas. Mm-hmm. Mais ça, c'est comme, moi, je veux qu'il embarque. Je veux tout le temps qu'il embarque. Mm-hmm. Je veux qu'il embarque beaucoup. Mais si je contrôle pas ça, fait, il faut que je tolère le fait que c'est limité et tout ça, tu sais.
OK. Peut-être qu'il y aura d'autres questions sur le roman graphique. Moi, dans la question, avant peut-être qu'on voit s'il y a des questions, des commentaires de la salle. Ton roman Chantier, ça, j'étais allé chercher ça sur le site de McGill. Oui. On nous annonce que tu travailles sur 1000 secrets, 1000 dangers.
Sur le site de McGill, ils parlent de ça?
Eh oui. Alors, surveille ton album à terre. Comment
ça qu'ils savent, ça?
C'est ça. Alors, c'est plus un secret. Là, je peux le dire, je ne divulgue pas un secret. Et que ce serait sur la trajectoire de ton père, chrétien du Moyen-Orient.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous dire un mot de ce projet?
Ben, c'est un projet qui est... C'est vraiment... Il n'est pas évident à faire, ce projet-là. Je ne sais pas comment... Là, je suis dans une phase comme ça que... J'ai aucune idée si je vais être capable de faire un autre livre. Tu sais, comme... Vraiment, c'est trop gros, c'est trop compliqué. En plus, je me suis donné des défis... Même en termes de taille, c'est que je voyais tout le monde avec le gros livre, tu sais, à la plage, tu sais, comme l'idée, tu sais, puis j'étais comme, moi aussi, je vais en faire un comme ça, tu sais, c'est quoi que ça fait faire un livre qui fait 100 000 mots, tu sais, c'est comme, je suis comme parti de cette idée-là, puis ça a été, tu sais, comme très, très mauvaise idée de commencer par là, parce que c'est une catastrophe depuis, tu sais, mais ça fait... On est quoi là? On commence 2017. Au début, je pensais qu'il paraîtrait en 2018, mais ça, c'est impossible. Ça fait 3 ans que je t'attends plein là-dessus.
Non, c'est un gros, ça serait un gros manuscrit.
Hein. Ouais, mais... C'est ça, pour je quoi. Sais pas, tu sais, comme, mais en tout cas, ça se passe sur le campus de l'UDM. y a plusieurs temporalités, puis c'est un livre sur les mêmes thèmes que d'habitude, la mort, la maladie, puis... Il y a une spécificité, c'est que il y a pas beaucoup de temps, par exemple, dans le livre. Ça veut dire, il est très très long, mm-hmm. mais il se passe en très très courte période de temps.
OK, donc c'est dilaté.
Ouais, c'est ça, c'est okay. Très très dilaté. Fait que je sais pas, mais je sais pas du tout là. Mm-hmm. J'ai fait la moitié à peu près, je te dirais, okay, mais c'est un cauchemar là, à écrire là, vraiment, c'est, je fais plus jamais ça. Je me dis toujours ça d'ailleurs, là. Je fais plus jamais ça, mais ouais, mais de même, en tout cas, je le fais plus parce que, mais donc c'est ça, sur le campus de l'UDM,
Puis sur, c'est sur un livre sur la religion, dans le fond.
Ouais.
J'essaie de réfléchir à mon rapport à la religion.
Mm-hmm.
J'ai été vraiment baigné dans le catholicisme. Comme, c'est pas normal, comme un gars de mon âge, d'avoir baigné dans le catholicisme comme ça, tu sais. Fait que je suis comme vraiment pris avec ça, là, tu sais. Venez vous asseoir, on a de la place. C'est ça,
c'est ça. Ben écoute, je pense qu'à ce moment-là, je vais juste pour que ça
ben ouais,
qu'on fait la transition. Il y a certainement des questions, commentaires de la... Oui?
Ben, je trouvais ça amusant que tu parles justement du fait que tu tires souvent sur des fils qui étaient dans tes livres précédents.
Ouais.
Par rapport justement au projet du déclin, parce que dans Pourquoi Bolin, il y a comme une citation du déclin qui passe pour un souvenir du narrateur, etc. Ouais. Et donc, je me demandais... bon, ça, c'est plus comme une sorte de commentaire qui fait référence à ma propre connaissance de Pourquoi Bologne. En fait, je me demandais comment t'étais entrée dans le scénario du déclin pour l'adapter au théâtre. Mm. Parce que c'est pas, je veux dire, cette fois-ci, c'est comme le texte de quelqu'un d'autre.
Ouais.
Puis c'est pas, ça flirte pas du tout avec l'autofiction comme tes autres œuvres.
Quand même pas mal, au sens où Arcand dit dans son avant-propos au scénario, je n'ai fait que répéter ce qui se passait autour de moi.
Mais pas avec ton autofiction. Après, peut-être que c'est comme ça que...
Ouais, ben en fait, c'est rendu Pierre Curzi, c'est un fils d'immigrant libanais, là.
OK.
Tu sais, il s'appelle Bruno Chaloub, puis c'est comme... Ouais, tu sais, c'est que... Mais tu vois, c'est ça aussi, l'apport, puis ça amène le rapport à la religion, aussi, c'est le rapport au mystère, jusqu'à un certain point. C'est il y a des choses que je comprends pas, comme le fait que mon téléphone a sonné, et puis que Patrice Dubois m'a dit... Tu veux-tu qu'on fasse le déclin ensemble? Puis j'ai dit, tu me dis tout ça à cause de Pourquoi Bologne? Puis il m'a dit, non, je sais pas, j'ai pas lu Pourquoi Bologne. Fait que j'ai dit, ouais, mais c'est parce que, man, tu sais, le déclin, il est là.
Ben oui.
Tu sais, il est cité là, tu sais, comme noir sur blanc, tout ça. Puis tu te rappelles, on avait raconté l'anecdote en répète. Puis, tu sais, c'est comme, c'est arrivé de même. Fait que là, après. Là, c'est sûr que c'est un autre genre de travail parce que il n'y a pas d'Alain Farah là-bas. En tout cas, oui, il y avait un moment donné où on parlait d'Alain Farah, mais les comédiens étaient mal à l'aise avec ça, fait qu'on l'a enlevé. Moi, je trouvais ça super bon. C'est la scène de... T'as couché avec Yvon Rivard? Fait qu'évidemment, il couche avec Alain Farah dans ce déclin-là. Sauf que après, évidemment, la fois où j'étais pas là, tout le monde a dit que c'était pas dur de faire ça. Fait que j'ai compris que les comédiens étaient fucking prudes, man. Puis, tu sais, comme vraiment pas edgy, là. Tu sais, fait que j'ai fait comme... Moi, je suis un démocrate à la base. Puis sérieux, c'est comme, si vous comprenez pas mon projet, il n'y a aucun problème, puis on enlève cette citation-là, puis il couchera avec Samuel Archibald ou Fabien Cloutier. Non, mais tu sais que ça se passe en 2017, le déclin qu'on fait.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Fait que là, oui, elle aurait pu encore coucher avec Yvon Rivard.
J'aurais pas eu la même...
Mais tu sais, avec les livres qu'ils vont faire au sujet d'aimer, puis d'enseigner, puis ça n'aurait pas été... Puis les luttes... Les luttes, en plus, qu'on mène par rapport à en tout cas, moi, je le fais à ma façon, mais dans le rapport, c'est-à-dire de malaise, tu sais, par rapport aux abus de pouvoir qui sont liés à ces positions, tout ça, ça aurait, tu sais, comme... Mais tout ça pour dire que c'est arrivé par hasard. Et puis après, ben là, pour moi, c'est quand même... c'est des projets... Tu sais, je pense que les artistes ont ça des fois, tu sais, des projets, c'est-à-dire, je sais pas, tu sais, les gars de Blur, ils font une fois de temps en temps, un qui fait un album pour Gorillaz, tu sais. Puis, tu sais, fait que dans le fond, pour moi, la collaboration avec la Pastèque ou la collaboration avec le Pape, tu sais, comme c'est des affaires qui arrivent que je fais parce que c'est le fun à faire. Tu sais, comme je pense que, tu sais, comme le monde qui connaissent mon travail vont voir mes obsessions et tout ça, mais tu sais, il n'y a pas d'extraterrestres puis de trucs là, dans ce déclin-là. Là, tu sais, j'avais des idées de même, mais tu sais, vraiment, ça passait pas. Mais genre, au début, j'ai proposé une couple d'affaires, mais là, on en a comme, c'est devenu une joke aussi parce qu'on parle de toutes les mauvaises idées que j'ai pu avoir au début, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est...
je sais pas. Tu sais, Faubon, c'est un side project pour Hakim
aussi. Oui, là. C'est ça.
Tu sais, j'ai jamais réussi à avoir le fin mot de savoir qui avait vraiment écrit le scénario. Tachella, Carrier. Non, c'est pas vraiment lui. Tu sais, c'est comme. C'est compliqué, là. Tu sais, fait qu'il y a des affaires de même qui vont rester. Comme le déclin, c'est avec Patrice que je le fais, mais c'est Patrice qui le met en scène. Tu sais, Arcan est là, quand même, très là. Tu sais, comme. Pas comme. Pas comme. Pas en intervenant, mais il est là. Mais bon.
Là, Tara, tu avais vu Romsi Tahubarakin qui avait écrit le scénario.
C'est ça qui est écrit
dans le C'est ça. Puis je pense que c'est une erreur qu'elle avait à ce cas-ci, parce qu'il me semble que c'est Tachella qui.
C'est Tachella qui l'a écrit, mais c'était tout un.
Ah oui, oui.
Comment?
Il y a beaucoup de liens.
Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si tu te rappelles même quand il est au lit, il lit le prochain épisode.
Ouais, c'est ça, il a montré dans les archives. Donc,
ouais, ah ouais, t'as fait ça. J'ai vu que t'as fait ça. Je me suis dit, tu vas-tu montrer Faubon? Parce que moi, la première fois que j'ai vu Faubon, c'est à l'UDM, au Krilk, justement.
Mm-hmm.
Fait qu'après, genre, mais c'était Karim, dans le fond, qui m'avait mis avec les archives. Mais je me rappelle plus, il y avait comme j'avais une difficulté technique à pouvoir le voir en, tu sais, comme en haute résolution. Fait que c'est là que j'ai commencé à tanner le monde à Radio-Can.
Mm-hmm.
Puis là, tu sais, comme à Radio-Can, il me trouvait vraiment gossant. Mais à la fin, man, j'ai eu tout. Puis même Jacques Godbout m'a écrit en me disant « Comment vous avez fait? » Même nous, quand on a fait le film, on n'a pas réussi. Puis ça, puis j'ai dit « Ah, vous n'avez pas de Clémence qui travaille pour vous. »
C'est ça.
Parce que dans le livre, c'est donc une... C'est toujours le... Mais tu sais, comme j'ai tout ce rapport-là où, comme je travaille quand même sur des tropes issues du genre, où il y a toujours Pepper Potts ou une sorte de figure féminine comme ça qui est l'adjointe.
Candice là, ouais, c'est ça. Clément là.
Ouais. Constance dans le prochain.
OK,
ouais, c'est ça. L'idée, c'est toujours pour moi de faire que les narrateurs, qui sont ces espèces de gars-là un peu prétentieux, tout ça, fasse pied de figure devant ces femmes-là qui sont toujours elles. Donc, c'est elle qui écrit le roman dans Pourquoi Bologne. Puis ici, c'est elle qui reste silencieuse devant les bêtises puis les vérités de la palisse qui va dire la plupart du temps, tu sais. Mais c'est elle qui permet au livre d'avancer, tu sais. Mais
avais-tu lu D'amour PQ de Godbout? Parce que moi, j'ai vu avec
Candice. Non, non.
Okay. Non. Parce que là, c'est presque comme... On pourrait croire que c'est un hasard.
Okay.
Parce que dans D'amour PQ, le narrateur n'arrive plus à écrire son histoire et c'est sa secrétaire qui tape, qui finit par l'écrire pour lui.
Okay.
Puis elle se lime les ongles à un moment donné. Il y a une scène dans ton roman. Je me suis dit, coudonc, c'est un clin d'œil à D'amour PQ. Non. Écoute, il y a tellement de clins d'œil qu'on ne sait plus lesquels qui sont des vrais clins d'œil et lesquels qui sont...
Ça aurait été une soirée productive, là. Je sais pas. Tu sais, comme, c'est vraiment... je sais pas comment vous le vivez tous, là, tu sais, mais ça nous... Moi, je trouve ce genre de travail-là, quand on s'expose en plus comme ça, ça nous met, tu sais, comme devant, tu sais, comme... Je sais pas. Tu sais, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que ça fait. Mm-hmm. Je sais pas, tu sais, comme... c'est pour ça que je tends toujours la main depuis tantôt à Tara, parce qu'elle m'avait dit, « Ah, ben, peut-être travailler sur les échos d'Aquin dans la littérature québécoise, ça. » Puis on s'en est jamais parlé. Puis à un moment donné, j'étais comme, « Et puis, le mémoire, c'est déposé, ça fait longtemps, ça. » Je suis comme, « Ouais, mais pourquoi je le cite? Je veux savoir, c'est quoi les conclusions, tu sais? C'est quoi les conclusions de... »
Veux-tu, Tara, faire un commentaire?
Je sais pas, je pense que je disais une réécriture d'Aquin, mais axée sur la maladie, de prendre de l'œuvre d'Aquin dans tous ses romans.
Je sais pas,
que mon mémoire
s'est terminé. Ouais. Mais c'était aussi, c'est-à-dire que ce que j'avais compris de ton travail, c'était le fait qu'il nous hante.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il hante le travail de Catherine, qu'il hante le mien, ça c'est un spectre.
Mm-hmm.
Puis pourquoi c'est un spectre aussi, il y a cette question-là aussi, ouais, mais c'est ça, c'est toute la mythologie, puis c'est aussi, moi, la question que je me pose souvent, c'est est-ce que ça continue d'être un mythe quand on dit qu'on essaie de se créer son propre petit mythe, tu sais, comme il y a ça que, tu sais, il y a, puis moi, je pense que c'est ça, c'est le truc dont vous avez vu... Vous avez vu sans doute les films de Nolan, Inception de Nolan, où il y a la scène de ce qu'il appelle, je crois c'est quoi, Tumbling Hallway, là, le moment où les gars font une bataille dans une espèce de corridor, puis que dans le fond, ils se renversent, tout ça. Puis tout le monde pensait que ça avait été fait par green screen, puis ça. Puis non, il y avait comme une espèce de mécanique hallucinante. Okay. Puis ça, c'est un truc de Bologne que j'ai enlevé, que j'explique dans Bologne. Dans une des versions de Bologne où là, finalement, c'est des gros machins hydrauliques hallucinants pour être capable de créer ça pour que ça arrive en vrai. Mm. Et puis, Nolan, on lui avait demandé, mais pourquoi t'as fait tout ça quand tu pourrais faire un truc qui serait super, tu sais? Il dit, parce que j'ai toujours trippé sur les tours de magie qui étaient plus fun encore quand tu connaissais le truc, puis que le truc t'impressionnait plus que la magie elle-même, tu sais. Puis moi, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec Alain Farah, surtout que maintenant que j'ai dit, même, ça a été écrit dans la presse, fait que c'est vrai que c'est même pas mon vrai nom, tu sais. Tu sais, que moi, j'ai un nom arabe à la base, tout ça, tu sais. Fait que là, tu sais, j'arrive après 5 livres à dire ça, tu sais. Fait que dans un livre où, justement, je travaille sur les chrétiens du Moyen-Orient, puis j'arrive sur l'identité, puis qu'est-ce que ça veut dire de s'appeler Youssef, tu sais. Tu sais, comme dans le Québec dans lequel j'ai grandi, tu sais. Dans le Québec dans lequel on continue de vivre, puis dans le Québec voisin d'un pays qui a élu un type qui a dit « il n'y a plus de musulmans dans notre pays ». C'est comme on va sortir les musulmans de ce pays-là. Moi, c'est comme j'ai grandi là-dedans, moi, dans cette espèce d'état d'esprit-là. T'sais. Tu vois pourquoi j'ai besoin d'un livre sur le Moyen-Orient?
C'est ça, et ça te rejoint tardivement. T'as jamais traité ça avant?
Ben, c'est là partout, là, même dans mon premier livre, tout ça. J'ai jamais. Dans tous mes livres, les personnages se demandent c'est quoi vraiment leur nom. Parce que moi, j'ai compris tard que je m'appelais pas Alain. Parce que c'était mon nom d'usage, mais j'avais comme pas vu les documents. Quand j'ai vu les documents, j'ai trouvé ça weird. J'ai demandé à ma mère, mais non, mais c'est tout le monde a ça. Tout le monde a un nom français, un nom arabe. Tout le monde a ça. Tu sais, je suis comme, mais Chris, c'est un léger détail. Mais
j'aurais pu savoir que je m'appelle ici.
Mais si tu prends tous mes livres, il y a toujours, c'est comme, c'est quoi mon nom, c'est quoi mon si, c'est quoi. Malish.
Oui.
Je voudrais, pour le rapport à la maladie mentale, vous avez dit que pour commencer le livre, ça avait commencé avec un titre. Puis c'était comme, OK, bon, ça commence avec ça. Puis qu'il n'y avait pas vraiment un genre, vous ne vouliez pas vraiment vous inscrire dans un genre ou quoi que ce soit. Mais pour. J'aimerais savoir le rapport avec la maladie mentale puis l'espèce de formalisme que le livre a pris, que vous le disiez vous-même, certains lecteurs ont trouvé que c'était un peu rebutant. Comment est-ce que ça l'a conduit l'écriture, justement, d'avoir ce thème-là que vous vouliez travailler autour, puis la forme que ça l'a pris, qui ne s'inscrit pas vraiment dans un genre ou qui invente un nouveau genre?
Ben, c'était de revenir à un truc super simple qui était, c'est-à-dire... Le lecteur qui est rebuté ou qui trouve ça difficile ou tout ça, il est dans un... Il est dans un pacte où, dans le fond, il est en train de qualifier le livre, c'est-à-dire d'être un livre de rupture, d'être un livre désorganisé, d'être un livre dans des temporalités confuses, tout ça. Mais moi, ma forme, elle vient juste du fait d'essayer d'être dans le plus grand rapport de fiabilité possible à la détresse, dans le fond. C'est que exposé à des intensités de détresse, de souffrance, mon expérience et puis le fait de parler de ces choses-là avec des gens, tout ça, me montre que c'est assez réaliste, en fait. C'est que n'importe qui est éprouvé, là, tu sais, comme va à un moment donné se dire, OK, tu sais, comme, c'est quoi la date, là, tu sais, où je suis en quelle époque, où je suis dans le ciel, puis il y a des télescopages comme ça, ce qui fait que tout d'un coup, le style de livre qui commence, puis que ça se passe bien, puis qu'il y a un début, puis que là, il y a un élément déclencheur, c'est ça le formalisme pour moi. Tu sais, d'arriver avec une telle violence sur l'expérience pour faire fitter l'expérience dans une forme qui n'existe pas. Okay. Tu sais, qui a un rapport au monde qui se décline sur début, milieu, fin, mineur de tel événement ou majeur de tel événement, puis ah oui, là, je suis rendu dans l'acte 3 de ma vie, puis tout ça. Tu sais, c'est comme fuck off, man. C'est pas de même, ça marche, tu sais. Puis
on va éditer.
Mais ouais, éditer,
mais. Mais dans ce cas-là, donc, l'histoire avec un grand H qui est comme assez perçue d'une manière linéaire, ou quand on lit dans les livres d'histoire, c'est on essaie de la mettre la plus linéaire possible pour mieux la transmettre aussi, justement. Est-ce que ça, les passages où on fait référence à la grande histoire, où il y a comme des références, savante ou historique ou quoi que ce soit. Ben, est-ce que c'est comme des espèces de pointes d'accroche à cette détresse-là? Est-ce que c'est le narrateur qui... On a cette détresse-là, puis en opposition, on a cette force linéaire qui vient peut-être le ramener, le réinscrire dans sa propre temporalité, je sais pas. Est-ce que ces voix-là s'opposent pour vous ou au contraire, elles se...
Ben, c'est-à-dire, c'est la vieille citation de Lucrèce, hein, l'ordre est un cas particulier du désordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le chaos, il y a du cosmos qui apparaît, momentanément, puis qui redisparaît, puis qui se redéfait, tout ça. Mais c'est sûr que là, la question historiographique n'est pas traitée de front dans le livre. C'est-à-dire que moi, je pense que ce n'est pas une réflexion sur la grande histoire. Mmh. Moi, je pense que c'est une réflexion sur nos petites histoires, puis sur le travail narratif qu'on opère sur nous-mêmes pour être capable de faire tenir ces histoires-là en dedans de nous. Donc, de ce point de vue-là, ce qui m'intéressait avec ces capsules, parce que moi, j'ai construit le livre comme en capsules. Comme les capsules qui,
aussi.
C'est ça, tu sais. Les capsules qui sont plus factuelles, pour moi, c'était hyper important qu'elle donne à voir une histoire complètement invraisemblable. Okay. Qui est une histoire, justement, qui n'a pas d'allure. Mm-hmm. Tu sais, comme par exemple, dans les premiers temps, quand le livre est sorti, un journaliste m'a dit, il dit, ah, quand même, vous avez beaucoup investi avec ce livre-là, beaucoup investi de temps. Tu sais, je dis, oui, il dit, par rapport aussi à Wikipédia. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire?
Il tout avait été.
Il pensait, là, il disait, par rapport à la SAP. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, mais... vous avez construit une page Wikipédia pour les sapeurs congolais. Je dis, bon, c'est de quoi vous, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit, non, mais ça, c'est une pure invention, ça. Je veux dire que des types au Congo s'habillent comme ça. Je dis, non, tu sais. Je veux dire, non, c'est non. Pas, ça arrive. Ah ouais, ah, je pensais que... Et donc, vous comprenez?
Vous aviez fait la page Wikipédia vous-même, puis...
pour que mon livre ait une sorte d'écho dans le réel. Ça. Parce que pour lui, c'était tellement invraisemblable que des dudes à Brazzaville puissent, tu sais, comme recycler du vieux linge puis s'habiller en costard de toutes les couleurs.
Il n'avait pas lu Black Bazaar de ma part. Parce qu'il aurait vu que...
Non, mais c'est ça. Mais pour moi, tous les moments où l'histoire apparaît dans Pourquoi Bologne, elle a cette connotation-là. Hein, à Montréal, la CIA est impliquée dans des expériences à Montréal. Mais oui, il y a des affaires, genre Cohen qu'on vient de perdre.
Ouais.
Tu sais, Cohen, la légende dit qu'il était dans ces étudiants-là qui avaient... parce qu'il y a beaucoup de monde qui faisait ces expériences-là aussi parce qu'ils étaient payés.
Oui, pour les faire. Ben oui,
c'est comme ça, tu sais. Ça se trouve beaucoup. Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que Cohen aussi a participé à ces expériences-là, des choses comme ça. Mais là, justement, tu sais, quand tu dis les choix, c'est que là, si je lançais la ligne Cohen dans mon livre, tu sais, comme, tu sais, là, c'est plus là, je suis dans le judaïsme beaucoup, c'est peut-être j'étais en Israël beaucoup l'année passée pour mon projet de roman, tout ça. Donc là, c'est comme, c'est plus maintenant que ça réapparaît, tout ça. Mais pour répondre à votre question, c'est oui, donc, moi, je trouve qu'il y a un bénéfice pour le lecteur. C'est-à-dire en temps réel. Parce que là, c'est comme, OK, justement, c'est quelque chose de linéaire. C'est pas quelque chose qui concerne sa petite histoire à lui. C'est comme, c'est notre histoire collective. OK, comme Montréal, c'est l'histoire de Montréal, l'histoire de McGill, l'histoire de... C'est ça, il y a des repères, tout ça. Mais quand on observe ce qu'on fait avec cette forme-là, linéaire, c'est qu'on raconte quelque chose qui n'a pas de sens du tout. Tu sais, et puis dans un sens... c'est un peu l'inverse par rapport à quand on est plus dans les affects puis dans la vie que vit ce narrateur-là. C'est une vie qui justement, semble pas avoir d'allure, mais c'est un peu ce que j'avais dit à Chantal Guy qui avait repris la formule. T'sais, je dis, mais c'est juste un gars qui a mal, dans le fond. Mm-hmm. Tu sais, comme... Puis à partir de là, c'est qu'il peut pas se contenter. Parce qu'il peut pas dire « j'ai mal », parce que « j'ai mal », ça fait ça, c'est poche, tu sais, comme pour un écrivain, tu sais, comme t'sais, de faire un livre qui dit juste « j'ai mal ».
Mais aussi, quand on a mal, c'est là qu'on est plus créatif, je trouve.
Ben ça, c'est un débat. Tu sais, moi, ça me fait chier de dire ça, mais je suis assez d'accord. mais c'est surtout, en fait, qu'il y a une insatisfaction. Tu sais, comme, puis il y a de la souffrance, tu sais, comme qui doit être, dans le fond, il y a comme de l'énergie qui doit être mobilisée ailleurs, tu sais, puis elle va être mobilisée dans de la création, mais après, ce qui est trippant, puis là, je pouvais pas rentrer là-dedans, mais tu sais, comme ce livre-là m'a amené à des endroits très bizarres, post-partum, là, tu sais, mm-hmm. c'est, tu sais, des moments où j'ai été invité à, dans des trucs, justement, de, d'art-thérapie, mettons. Mm-hmm. Tu sais, comme que je comprenais comme pas, mais je le faisais parce que, justement, ça, ça a à voir avec des jeunes, puis tout ça. Fait que c'était trippant, c'était, ça s'appelle Espace Transition à Sainte-Justine. Là, j'étais comme, j'intervenais dans des affaires de même, puis... Puis là, tu sais, il y avait tout d'un coup des psychiatres qui venaient là-même et disaient « Oui, mais monsieur, tu sais, comme en imagerie, on voit que les zones liées, par exemple, à certains troubles, tu sais, comme sont proches des autres zones, tu sais, comme liées à la création, puis des sites, fait qu'il y a comme toute une architecture, même cérébrale, tu sais, qui... Ben, c'est un labyrinthe aussi, c'est le cerveau aussi, là, tu sais, qui est exploré, puis ça, tu sais. Donc... mais je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Là. Vous êtes à la moitié, là. C'est-à-dire, vous êtes où, là? C'est parce que...
Je l'ai arrêté, ça fait peut-être 2-3 jours.
Ouais.
Je sais pas, il faudrait que je regarde même mon signe.
Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais c'est... C'est-à-dire, on peut arrêter aussi. C'est-à-dire que c'est pas... je travaille à petite échelle, moi, tu sais... Puis on peut arrêter d'enregistrer aussi pour pouvoir parler plus librement. Moi, je me surveille, tout ça.
OK, OK. Ouais. On va arrêter là pour l'enregistrement, oui, d'accord.